Il y a une maladie qui touche de plus en plus de gens dans le monde et autour de moi. C'est le diabète. Une personne sur 20 environ en Suisse en souffre. Pourtant, le diabète ne se voit pas forcément.
Quand vous vous promenez dans la rue, vous ne pouvez pas dire si quelqu'un est diabétique ou pas. Évidemment, c'est lourd à porter, parce que c'est tous les jours. Pour une personne diabétique, il n'empêche que vous pouvez apparemment avoir une vie normale.
Microscience, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microscience, le podcast qui transforme nos petites questions du quotidien en grandes réponses scientifiques et métaboliques. Alors je vous vois venir. Vous allez me dire que le diabète et son augmentation dans la population est fatale et qu'elle ne concerne que les personnes âgées. Une maladie de vieux, quoi. Vraiment ? Dans cet épisode, je vous propose de découvrir ce qu'est exactement le diabète et pourquoi il faut s'en préoccuper dès le plus jeune âge. Nous allons donc nous tourner vers Pierre Mechler. Il est professeur à la faculté de médecine de l'Université de Genève, au département de physiologie cellulaire et métabolisme. Et puis surtout, on va s'attarder sur un organe en particulier, le pancréas.
Le pancréas dans son ensemble, c'est une glande qui se trouve sous le foie, sous l'estomac, qui a deux fonctions. Une qu'on appelle exocrine, et ça c'est pour produire des enzymes, donc des molécules spécialisées pour la digestion. Et ça va être déversé directement dans l'intestin. Plus de 90% du pancréas, c'est cette fonction. Et puis, il y a des grappes de cellules qui sont dispersées dans ce pancréas, comme des petites îles, donc on appelle ça des îlots de Langerhans, parce que c'est M. Langerhans qui les a observés en premier. Et dans ces petites grappes de cellules, qui composent que 1 à 2% de tout le pancréas, il y a des cellules qui sont spécialisées pour la sécrétion d'insuline, les cellules bêta-pancréatiques. Et bien là, c'est la fonction qu'on appelle endocrine. Endocrine, ça veut dire que le produit de leur travail sera déversé dans le sang.
Le pancréas est donc un organe qui pèse une petite centaine de grammes, mais il est hyper utile. D'un côté, il contient des cellules qui produisent ce qui nous permet de digérer quand on mange, et de l'autre, des cellules bêta, c'est leur nom. Elles produisent de l'insuline. Insuline, je sais que cette hormone est super importante et qu'elle a un lien avec le sucre. Mais j'avoue que je ne me souviens plus vraiment de ce qu'elle fait.
Alors l'insuline, sa fonction, c'est de stocker.
Stocker quoi ? Tout ce qu'on mange ?
On va prendre un repas qui sera composé de sucre, de graisse, de protéines. Mais finalement, la cellule bêta, elle est sensible pratiquement que au sucre, au glucose. Et quand elle voit du glucose arriver, eh bien, elle se met à sécréter de l'insuline. Et ça permet de refaire des graisses, de refaire des protéines et de stocker le sucre, c'est-à-dire de le faire passer du sang dans des tissus. Donc ça, on a ce transfert finalement du sucre à l'intérieur des cellules qui en ont besoin.
Et en fait, toutes les cellules ont besoin de sucre. C'est leur carburant. Cela leur apporte l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a plusieurs sortes de diabète. Type 1, type 2. Moi, ces types, ils me perdent.
Pour le type 1, les patients dépendent d'un apport d'insuline. C'est en fait une maladie auto-immune, c'est un peu comme d'avoir une allergie. C'est-à-dire que notre système immunitaire se trompe de cible, tout d'un coup, et prend pour cible les cellules qui sont spécialisées pour la sécrétion d'insuline. Et c'est un diabète qui apparaît typiquement à l'enfance ou préadolescence, donc on appelle ça aussi le diabète du jeune enfant. Et là, il y a malheureusement une destruction de ces cellules bêta. Alors type 2, finalement, on a mis un peu tout le reste. C'était typiquement le diabète de la personne âgée, puisque ces cellules bêta-pancréatiques, elles ne se divisent pas. Donc finalement, au cours de temps, on perd de ces cellules bêta. Et à force de les perdre, on devient un peu moins efficace pour gérer le sucre dans le sang, donc la glycémie. Et finalement, une personne âgée, pas forcément, mais elle deviendra un peu diabétique. Donc c'était typiquement le diabète de la personne âgée.
Il y a donc le diabète que l'on appelle poliment celui des personnes âgées, le type 2. On va voir qu'il se déclenche de plus en plus tôt et qu'on est tous déjà un peu vieux quand on y pense. Tout tourne donc autour de cette histoire de sucre et d'insuline. et de ces fameuses cellules bêta nichées dans notre pancréas et qui sécrètent cette insuline. Une hormone indispensable qui va permettre au sucre d'entrer dans nos cellules. Mais il est où, le stock de sucre ?
En fait, le foie sert d'éponge au sucre. On doit conserver une quantité de sucre dans le sang qui soit constante. Et en fait, cette fenêtre est assez ténue. Idéalement, il faut être autour de 5 millimolaires. Ça veut dire quoi, 5 millimolaires ? C'est 1 gramme de sucre pour 1 litre de sang.
Et ça, ça va permettre à tous nos organes de fonctionner.
Mais en particulier, il y en a un qu'on appelle glucodépendant, donc ça veut dire qu'il dépend de la provision de sucre, c'est le cerveau. Le cerveau va consommer à peu près 5 grammes par heure, donc un morceau de sucre par heure. Donc à un moment T, si je prends une photo à ce moment-là, j'ai dans mon sang un morceau de sucre. Mais il est consommé à mesure.
Il faut une quantité constante de sucre dans mon sang, en permanence, tout le temps, la nuit aussi.
Après avoir mangé, l'organe qui sert cette fonction, c'est l'intestin, c'est votre digestion. Donc pendant 2 heures, 3 heures, votre intestin va fournir ce sucre, va compenser ce sucre qui disparaît. Et puis quand vous avez fini de digérer, et celui qui prend le relais, c'est le foie, sous l'action d'hormones, va restituer le glucose qu'il avait emmagasiné pendant votre période de digestion. Et ça, ça peut durer quelques heures, ça peut durer une douzaine d'heures. Ben, c'est le jeûne nocturne, c'est la nuit. Et puis après, on doit arrêter le jeûne, c'est-à-dire déjeuner, et on reprend un repas. Si on ne le fait pas, le foie doit passer une autre fonction, il va continuer d'être le responsable de la fourniture du sucre, mais il doit refabriquer du sucre complètement. Et pour ça, il va utiliser en fait des protéines qui sont issues de nos muscles. Mais là, on est déjà un peu dans une situation de crise parce qu'on va sacrifier un peu de muscle pour refaire du sucre.
Tout ceci est donc extrêmement bien conçu et c'est le fruit d'une évolution. Je mange, je digère ce que je mange. Mon pancréas participe à la digestion. Les sucres sont assimilés dans mon intestin. Et là aussi, le pancréas, ses cellules bêta et l'insuline vont faire en sorte que le sucre soit disponible pour mes organes et mon cerveau. Si les cellules bêta viennent à manquer, c'est embêtant. Ne pas produire de l'insuline, c'est grave, docteur ?
C'est la mort. Il y a 100 ans, on a découvert l'insuline, on a pu isoler de l'insuline, ça a permis aux gens de vivre. Sans correction et sans insuline du tout, il n'y a pas de vie possible. Malheureusement, c'est une hormone qui est indispensable. Si on a plus d'insuline, en fait, on va simplement maigrir. On aura trop de sucre dans le sang, mais finalement, le sang, c'est un véhicule. Il ne permet pas aux cellules de vivre. Il faut encore que ce sucre passe du sang aux organes qui en ont besoin. Et les personnes diabétiques de type 1, le signe, c'est un amaigrissement. Elles vont maigrir. En même temps, leur sucre va rester dans le sang. Et qu'est-ce qui va se passer ? En ce que le sucre s'accumule dans le sang, sans qu'il puisse être utilisé par nos organes, bien nous donne soif pour se débarrasser de cet excédent de sucre qu'on n'arrive pas à utiliser. Donc on boit beaucoup, ça donne soif, ça urine beaucoup pour éliminer ce sucre qui n'a du coup pas été utilisé par l'organisme.
Chez les personnes souffrant de diabète, il y a trop ou pas assez de sucre dans le sang, alors que tout avait été prévu pour que notre cerveau et nos organes aient droit à leurs petits morceaux de sucre en permanence. C'est donc dans le trop ou le pas assez que la santé est impactée. Les personnes souffrant de diabète sont nombreuses. L'OMS considère que c'est une épidémie mondiale.
Une épidémie, oui, il y a une augmentation des cas de diabète. Alors c'est surtout le diabète de type 2 qui augmente, même si le type 1 augmente aussi. Il y a plusieurs causes en fait au type 2, mais la principale en fait c'est liée à la prise de poids, à l'obésité. Et ça contribue effectivement à cette augmentation du diabète de type 2.
Il faudrait m'expliquer le rapport avec la graisse. Parce qu'on parle de sucre dans le sang et d'insuline, de cellules du pancréas, tout ça. Mais la graisse...
Alors ça, c'est un sujet de recherche parce qu'on comprend mal ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'on bascule du « je suis en surpoids, je suis un peu résistant à l'insuline » et puis tout d'un coup, je deviens diabétique. Des personnes ne deviennent pas. Et c'est le sujet de nombreuses recherches, d'essayer de comprendre au niveau cellulaire et moléculaire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce basculement contribuait par la perte de la fonction de ces cellules bêta? Pourquoi tout d'un coup, elles ne fonctionnent plus? Alors, une personne en surpoids, elle va probablement manger plus, et aussi le cumul en fait de graisse fait que on relâche toujours un peu de graisse dans le sang, et on pense qu'il y a une certaine toxicité liée à des acides gras qui circulent. Et c'est une piste qui est étudiée pour voir si une surdemande de travail de ces cellules bêta, combinée à une exposition un peu chronique, un peu tout le temps, un peu trop de graisse, peut-être un peu d'inflammation, peut-être un peu de sucre de temps en temps, il y a une certaine toxicité qui se mêle à un travail accru, et à un moment donné, finalement, elles n'en peuvent plus, quelque part, et elles dysfonctionnent, voire, éventuellement, elles disparaissent.
Ce qui m'étonne aussi, c'est que c'est une maladie non transmissible. Et elle est souvent qualifiée de silencieuse.
Silencieuse parce que c'est un petit peu comme pour de l'hypertension. Vous pouvez ne pas remarquer que vous avez de l'hypertension. Le diabète de type 2, c'est une lente progression avec d'abord des tissus, des organes qui deviennent résistants à l'action de l'insuline. Donc il y a toujours de l'insuline, simplement elle est moins efficace. À ce moment-là, on n'est pas encore diabétique. On peut considérer qu'on est pré-diabétique. Mais ça ne nécessite pas forcément une prise en charge, si ce n'est peut-être une modification, un ajustement de ses habitudes de vie, peut-être sur l'alimentation, sur l'exercice physique, qui, à eux deux, peuvent très bien corriger cet état de pré-diabète. Donc on peut, avec des mesures relativement simples sur le papier, revenir en arrière. Si vraiment le diabète est établi, on ne peut pratiquement pas revenir en arrière.
Le prédiabète est donc silencieux et pernicieux. Quand le diabète de type 2 se déclare, son évolution est lente. Mais plus il se déclare tôt, plus son évolution est rapide.
Donc, il faut s'en inquiéter au plus jeune âge. Et donc, on peut trouver des ados qui développent un diabète de type 2, ce qui n'était pas imaginable encore il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. Donc non, il faut s'en inquiéter de façon très précoce. En fait, un jeune en surpoids qui manquerait d'exercice, on doit déjà s'inquiéter.
Je vous l'avais dit, le diabète de type 2 ne touche pas que les vieux. C'est surtout une question de poids. Peut-être aussi une question d'hérédité. Dans ma famille, les cas de diabète de type 2 sont connus. Donc je vais fatalement développer la maladie.
Le diabète de type 2 n'est pas forcément une fatalité. On a dit que c'est un diabète dans lequel on a mis un peu toutes les catégories. Il existe quelques diabètes qu'on appelle monogéniques. Ça veut dire quoi? Ça dépend d'un gène. Et à ce moment-là, effectivement, on a hérité malheureusement de certains gènes qui peuvent non seulement prédisposer, mais déclencher un diabète, sans qu'on puisse, avec des habitudes de vie, vraiment le corriger. C'est rare, mais ça existe. Et puis après, effectivement, il y a cette contribution au diabète de type 2 qu'est l'obésité.
C'est mal parti, cette affaire. Je suis en léger surpoids.
C'est pas qu'une question de poids absolu, c'est aussi une question de poids par rapport à un exercice physique qu'on pratique. L'exercice physique, on parle pas d'être un champion sportif, mais un exercice physique régulier peut assez largement contribuer à freiner, en fait, tout au moins, voire à prévenir le développement du diabète. Donc on voit des personnes qui sont en surpoids, qui pratiquent une activité physique régulière, un peu soutenue. Ça veut dire quoi, soutenue? C'est-à-dire qu'on a besoin de respirer plus fort, qu'on sent que notre cœur bat plus vite. Et ça, c'est un très bon protecteur, en fait, du développement du diabète.
Moi, je veux bien faire un effort. Mais cet excès de graisse, là, dans mon corps, autour de ma taille, mon cerveau, il pourrait pas l'utiliser? Parce qu'avec tout ce que je réfléchis, là, ça pourrait peut-être aider, non?
Malheureusement.
Ou ça part mal.
Notre corps est extrêmement efficace à transformer du sucre en graisse, c'est-à-dire l'excédent de sucre sera transformé en graisse. Par contre, l'inverse n'est biochimiquement pas possible. On n'arrive pas à transformer efficacement des graisses en sucre. Donc lorsqu'on est en déficit de sucre, bien non, on peut encore avoir 30 kg de graisse, ça ne servira à rien. Il faut aller chercher en fait les acides aminés, c'est-à-dire ce qui compose les protéines, pour faire du sucre, c'est-à-dire la néoglucogenèse, on l'appelle, c'est-à-dire vraiment faire de nouveau du sucre.
Bref, mon cerveau bouffe du sucre et quand il n'a pas de sucre, il bouffe du muscle. Il n'y a pas d'autres organes qui pourraient collaborer un peu pour régler cette histoire de gras ?
L'organe qui arrive très efficacement à consommer des graisses, c'est les muscles de notre squelette, les muscles squelettiques. Heureusement, le muscle cardiaque, lui, peut tout consommer. Il n'est pas difficile, il est d'accord de consommer du sucre, d'autres produits, y compris des graisses. Mais si vraiment on veut consommer des graisses, le plus efficace, quantitativement, c'est de demander à nos muscles de notre squelette de le faire.
Et la suite me paraît étrangement prévisible.
Ben voilà, il faut faire de l'exercice physique. En restant dans son canapé, il y a peu de chances qu'on utilise vraiment, vraiment nos graisses. Et on peut entraîner nos muscles à mieux utiliser des graisses. Parce qu'il faudra que notre muscle non seulement soit sollicité, c'est-à-dire qu'il ait besoin de dépenser cette énergie, mais aussi il faut qu'il soit équipé à le faire. Et ça, il faut de l'entraînement. On a non seulement un accroissement de la masse musculaire, mais l'équipement physiologique de nos cellules musculaires vont faire que quand on a l'habitude de faire un exercice un peu soutenu, c'est-à-dire plus que 15 minutes, on a plus de la machinerie qui permet d'utiliser ces graisses.
Bon, d'accord, je m'y mets. Mais au fond, pourquoi est-ce si important que le taux de sucre soit si constant dans mon sang ?
On a cette fenêtre autour de 1 gramme par litre. Si on descend, il y a un moment donné où le cerveau ne sera plus alimenté suffisamment. Et en fait, on risque d'un coma même, parce que le cerveau ne pourra plus fonctionner. À vrai dire, il faut descendre que de quelques unités pour que ça se produise. Dans l'autre sens, si le sucre augmente gentiment dans le sang, ce qui va se produire, c'est que ce sucre va se lier de façon inadéquate à certaines protéines. Chaque fois que des protéines se lient de façon inadéquate avec du sucre, elles perdent leur fonction. Et ça va être vrai pour certains nerfs, donc on aura des neuropathies. Ça va être vrai pour des facteurs de coagulation, donc on aura des plaies qui vont mal cicatriser, en particulier dans les extrémités, dans les doigts de pied. Et il est très commun, en fait, pour des personnes diabétiques, d'avoir un diabète mal réglé et d'avoir finalement des amputations. Aujourd'hui, en Suisse, la première cause d'amputation, c'est le diabète. Sur les pieds, il y a d'une part une perte de sensibilité qui fait qu'on ne remarque pas forcément qu'il y a une plaie. Et ensuite, elle va moins bien se guérir. Donc, ces personnes doivent être extrêmement attentives à ne pas laisser aller une petite blessure. Il y a aussi des problèmes sur les yeux avec des cataractes pour les mêmes raisons.
Un diabète mal réglé peut donc se manifester soit par une baisse soudaine du sucre dans le sang, soit par des protéines qui ne fonctionnent plus bien. Dans les deux cas, notre santé est fortement impactée. Concernant les traitements disponibles, la découverte de l'insuline, il y a 100 ans exactement, a changé la donne chez les diabétiques de type 1.
Ça leur a juste permis de vivre. Sinon, c'était la mort au bout du chemin en quelques semaines, en quelques mois. Cette insuline a été isolée chimiquement, donnée d'abord à un chien qui était diabétique, qui a pu vivre, c'était découvert à Toronto. Et puis ensuite, c'est les premiers enfants. Donc ça, évidemment, que ça a complètement révolutionné l'approche, mais là, on parlait vraiment que des types 1.
Mais les personnes qui produisent encore de l'insuline, celles qui ont encore des cellules bêta dans le pancréas ?
Quelque part, on doit leur amener une sorte de béquille. Et là, il y a un médicament qui est en première ligne, qui s'appelle la metformine, qui est donné à pratiquement tous les nouveaux diabétiques de type 2. Et cette molécule, qui est connue depuis très longtemps, elle permet d'aider le fonctionnement de l'insuline. Après, il y a d'autres molécules qui peuvent rentrer en ligne de compte. Par exemple, d'essayer d'enlever un excès de glucose dans le sang et le faire passer dans l'urine, c'est de relativement nouveaux médicaments. Et puis il y a aussi certaines molécules qui aident un peu la cellule bêta à fonctionner, des hormones qui sont produites par l'intestin ou des dérivés de ces hormones. L'une d'elles s'appelle le GLP-1, qu'on a aussi trouvé chez un gros lézard mexicain, très très vilain.
Lézard mexicain, GLP-1. Oh, ça va encore.
Il a une tête noire, un peu rond comme ça, avec des dessins sur le corps, des dessins de couleur jaune. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les motifs des animaux, je vous invite à écouter l'épisode sur le zèbre. Bref, revenons à notre lézard mexicain. Il produit donc une hormone qui ressemble à celle qui se trouve dans notre intestin.
Qui aide en quelque sorte la cellule bêta.
On peut donc stimuler nos cellules bêta pour qu'elles stockent du sucre dans le foie. Ensuite, il faut que ce sucre soit distribué aux organes. Là aussi, des hormones entrent en jeu et permettent de réguler le sucre. L'une de ces hormones est le glucagon.
Glucagon, sa fonction principale, ça va être de demander au foie de produire du glucose. Une autre hormone de recrutement, c'est l'adrénaline. Lorsqu'on doit répondre à un stress, on doit plus stocker, on doit mobiliser nos ressources. On peut très bien être encore en train de digérer et tout d'un coup avoir besoin de recruter. À ce moment-là, l'adrénaline, elle va immédiatement stopper l'action de la cellule bêta, c'est-à-dire stopper la sécrétion d'insuline. Donc l'adrénaline a un fort effet sur la cellule bêta en stoppant sa sécrétion.
Si les traitements contre le diabète existent, il n'est pas vraiment possible d'en guérir à l'heure actuelle. Les greffes de cellules bêta sont fastidieuses et on ne connaît pas encore de moyens pour régénérer ces précieuses chefs d'orchestre du taux de sucre dans notre corps. Au final, le diabète nous échappe encore sur beaucoup d'aspects.
On ne sait toujours pas, dans le type 1, qu'est-ce qui fait que le système immunitaire, tout d'un coup, prend pour cible spécifiquement les cellules bêta. Et vraiment spécifiquement, pas la petite voisine à côté qui est la cellule alpha, mais juste cette cellule bêta. On a des pistes, mais on ne comprend pas. Type 2, d'être en surpoids, d'être obèse, n'est pas suffisant à déclencher un diabète. Ce qui déclenche le diabète chez ces personnes, c'est à un moment donné que la cellule bêta qui produit de l'insuline dysfonctionne, voire disparaît. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tout d'un coup cette bascule? Et là, on a des pistes, encore une fois, mais on n'a pas la compréhension.
Ces mystères seront sans doute, tôt ou tard, dévoilés par les scientifiques. En attendant, préservez votre pancréas, votre foie et faites bouger vos muscles. Eux aussi œuvrent en silence. Ils sont doux et ils sont bons pour mon cerveau. David Golan, la crème de la réalisation. Grégoire Moll, le loukoum de la coproduction. Et Jérôme Nussbaum, le miel de l'habillage musical. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à vous abonner à ce podcast sur Spotify ou Apple Podcasts par exemple.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où est la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Et si vous vous posez des questions sucrées, salées ou même épicées, écrivez-moi sur microscience en un seul mot et au pluriel, microscience@rts.ch.